Bonjour à tous. Je devais vous apporter ce message il y a 2 semaines, mais on a eu un petit quiproquo administratif et cela n'a pas pu se faire. Et du coup, je me suis posé ce matin, quand Emmanuel et Daniel m'ont dit que c'était reporté à aujourd'hui, la question de savoir si ce que je pensais devoir vous apporter il y a 15 jours était encore valable aujourd'hui. Sachant que si on croit que Dieu conduit toutes choses, il y a peut-être des raisons pour que les choses ne se fassent pas ou que les choses soient décalées. Donc, hier soir, tard, j'ai relu ce que j'avais préparé depuis donc quelques temps et en me mettant vraiment devant le Seigneur pour lui demander si c'était ça qui était encore valable ou si le report qui avait été fait avait un sens et devait me pousser à parler d'autre chose. Et pour moi, la réponse a été claire. J'espère qu'elle venait de Dieu. Et je vais donc vous donner ce que j'avais prévu de vous donner il y a 15 jours, parce que en le relisant, vraiment, j'ai ressenti les mêmes émotions et la même obligation de vous parler de ce que je souhaitais vous dire il y a déjà 15 jours. Il y a 2 semaines, j'avais été très, très frustré, non pas à titre personnel, mais à titre de ce que j'avais sur le cœur de vouloir vous dire. Et je me disais que peut-être cet empressement, cette urgence n'était peut-être plus valable aujourd'hui, que c'était juste le fait d'une émotion personnelle, mais qui ne venait pas de quelque chose qui me dépassait. Et en toute humilité, je considère que cette urgence est toujours là, je la ressens. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je voulais vous parler de Noé, suite au film qui est sorti il y a déjà un mois et demi. Je sais que plusieurs d'entre vous dans l'église ont souhaité voir ce film, et puis il y a eu des problèmes de mail, de date, et puis finalement, c'est passé à l'as. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas, la question n'est pas là. Moi, je l'ai vu, ce film. Vous savez que j'aime bien aller me frotter à la réalité du quotidien, pour ensuite essayer de voir ce qui, dans nos vies, peut en être tiré et bénéfique. J'avais déjà fait ça pour le Da Vinci Code, il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ce film-là. Et puis j'avais aussi parlé, il y a environ un an et demi, de l'Arche de Noé et de l'Arche d'Alliance. Il y avait la Grande Arche et la Petite Arche. Et là, ce film-là, qui était a priori entouré de critiques très négatives, m'interpellait. J'avais quand même envie d'aller le voir et de, comme d'habitude, me faire moi-même ma propre opinion sur ce spectacle, paraît-il hollywoodien, qui contrecarrait et surtout qui ne respectait pas du tout ce que la Bible en disait. Donc c'est de ça que nous allons parler ce soir. Aujourd'hui, pas du film évidemment, mais de ce que Noé a à nous dire pour nous aujourd'hui. Et tant mieux si le film le met en avant, et peut même, et c'est ce qu'il a fait pour moi, faire... mettre le point, l'accent sur certains moments très importants que j'avais oubliés ou dont je n'avais plus pris conscience et qui m'ont vraiment interpellé et remis dans une forme d'urgence que je voulais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous transmettre. Alors, j'ai hésité encore il y a quelques secondes sur est-ce que je dois vous lire l'histoire de Noé qui dure 3-4 chapitres, ça va durer 7-8 minutes. Jusqu'au dernier moment, je pensais que je ne devais pas vous la lire parce que je pense que tout le monde la connaît. Et puis en fait, là maintenant, j'ai la certitude que je dois vous le lire. Parce que quitte à voir l'histoire de Noé, vaut mieux l'avoir dans la Bible que dans le film. Donc là, nous avons le scénario original. Et à partir de ce scénario original, je développerai quelques points que le film a permis pour moi de mettre en valeur et que j'avais un peu oublié et j'espère qu'il... ça sera aussi des points qui, pour vous, vous diront quelque chose. Donc, j'ai demandé à Martine de ne pas vous mettre le texte derrière, d'abord parce que ce n'est pas les mêmes traductions, et ensuite, j'aimerais qu'on plonge ensemble dans cette histoire de Noé, qu'on l'écoute telle qu'elle a été écrite il y a très très longtemps, hein, plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années, 1500 ans en gros. Donc, c'est le tout début de la Genèse, ça va durer, je vous dis, 2 chapitres, il y en a peut-être pour 6, 7, 8 minutes. Essayez d'écouter cette histoire, parce que finalement, je me suis rendu compte que moi, quand j'étais voir ce film, je me dis, bah oui, Noé, évidemment, j'ai pas eu la curiosité de le relire avant, je l'ai lu après, j'aurais mieux fait de le lire avant. Et il est bien, sur les grands les grandes histoires que les gens appellent des légendes de notre Bible, au fait de replonger dedans et de les relire, parce qu'on croit tellement les connaître qu'en fait, parfois on va oublier des choses importantes et des détails importants. Donc je vous propose, je vais essayer de le lire correctement, d'écouter cette histoire de Noé et de revivre le film, si je puis dire, de ce que nous raconte la Genèse. Ça va être de Genèse 6 à Genèse 8,5-9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair et en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux se levèrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà, je vous ai fait économiser 7,50 euros. Parce que le film, c'est ça. C'est exactement ça. Et toutes les critiques qu'on a pu lire sont en fait exactement la preuve que l'homme est ignorant, que l'homme ne connaît pas Dieu, que l'homme ne connaît pas la parole de Dieu, et que tout ce que Dieu dit sur l'homme négatif de l'homme, et bien tout ce qu'on a entendu sur ce film-là, c'est exactement le miroir de ce que Dieu dit de nous. Et alors évidemment, il y a des images, il y a des comédiens que l'on connaît, donc on peut dire qu'il y a quelque chose d'hollywoodien, mais quand on dépasse ça, on est exactement dans le récit biblique. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, et du coup, ce film que j'ai pris comme un spectacle, en quelque sorte, d'abord, en pleine tête, en me replongeant dans ce texte, je me suis rendu compte que c'était exactement ça. Et toute la violence des sentiments que j'ai pu ressentir en regardant ce film, c'était agrandi fois mille en lisant ce que la Bible nous disait. Parce que ce texte qu'on vient de lire, et encore une fois, je ne sais plus qui disait que la meilleure prédication, c'est la parole de Dieu, c'est d'une force extraordinaire. Ça nous dit quelque chose de puissant sur notre vie à nous aujourd'hui et sur l'état d'urgence dans lequel nous sommes. Et c'est ce que je voudrais développer rapidement maintenant. Alors évidemment, je ne vais pas parler de tout Noé. Il y a des spécialistes, je ne suis pas un spécialiste. Il y a des points sur lesquels je n'ai aucune réponse. Les fameux géants, les Nihilim qui sont là, les fils de Dieu, je n'ai pas de réponse. Les âges, c'est cette généalogie où Noé serait le dixième successeur d'Adam, ils vivent très très longtemps, je n'ai pas de réponse sur la possibilité de vivre aussi longtemps. Même aussi sur la fameuse reproduction, ils sont trois couples. Et avec trois couples, ils vont réussir à peupler toute la Terre. Pas de problème de consanguinité, etc. Il y a sûrement des réponses à ça. Je ne les ai pas. N'attendez pas de moi ce tour de magie-là. Parce que ce n'est pas le plus important. Et comme dit la Bible, il y a des choses qu'on ne comprendra que quand on sera avec notre Seigneur et qu'on ne peut pas comprendre maintenant. Donc ce n'est pas ça que ce texte doit nous dire aujourd'hui. Alors, le film, lui, il a résolu ces problèmes-là d'une manière intelligente et qui n'est pas totalement idiote. Alors, évidemment, ça a provoqué des critiques hontées. Qu'est-ce que cet espace, qu'est-ce que c'est ce film ? On nous présente ça comme un film historique. Non, ce n'est qu'une fable ridicule, un scénario sans queue ni tête, un préchi-prêcha dégoulinant de mauvaise foi, sans jeu de mots. et un Dieu égoïste et lointain dont on ne veut absolument pas, à l'époque d'une espèce de New Age où tout est beau, tout le monde est gentil. Donc comment le film résout ces problèmes-là? Très rapidement, simplement, les fameux géants, eh ben, il y a des anges, parce que c'est dit plus tard que c'est des anges qui ont été déchus et qui viennent, qui sont déchus sur Terre, et c'est eux qui vont aider Noé à construire cette arche incroyable. Pourquoi pas? Qu'importe, je veux dire. Et l'histoire de la reproduction, c'est pas les trois belles filles qui vont rentrer, parce qu'il n'y a qu'une belle fille, et ils vont introduire quelque chose. Les deux autres enfants sont très traumatisés de rentrer dans l'arche sans filles. On dit, ben nous quand même. Donc ils vont essayer d'aller chercher des jeunes filles pour les sauver avec eux, pour qu'ils aient une femme chacun. Petit détail. Et enfin, quelque chose d'important dont je parlerai un peu plus tard, qui est une vision qui peut être juste et qui nous apporte quelque chose. Donc très rapidement, historiquement, il y a des traces du déluge dans toutes les civilisations. Là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais tous les savants le disent, que quelle que soit la civilisation, on parle à un moment d'un déluge énorme qui a provoqué des catastrophes invraisemblables. Je voudrais juste, dans un premier temps, voir le côté, théologique de ce texte, très rapidement. Du côté de Dieu, d'abord, il y a un constat. Le constat, c'est que l'homme est mauvais, l'homme est violent. Donc, je vais juste relire des tout petits bouts à l'angle, sous l'angle que je viens de vous dire, donc 6-5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc à partir de ce constat, que fait-il? On l'a lu, il regrette sa création. Un peu plus tard, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il en fut affligé en son cœur. Et conclusion de ce raisonnement, il va l'effacer. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Voilà. L'homme n'est pas bon. Je le regrette de l'avoir fait. Conclusion, je l'efface. Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas supporter le mi-figue, mi-raisin. L'homme a eu sa liberté. Il a choisi son camp. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas le voir. Donc, je l'extermine. Mais Dieu change d'avis. Alors ça, c'est quelque chose qui, dans le film, c'est le dernier point dont je voulais parler par rapport aux petites dissemblances, ce qui est assez intéressant, c'est que Noé, dans le film, est persuadé qu'il a été chargé par Dieu de mener à bien l'extermination de toute vie sur la terre, mais que lui fait partie du plan d'extermination. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus apte qu'un autre à rester, lui, vivant et à recommencer la vie. Il sait qu'au fond de lui, il porte le même mal que tous les autres hommes qui vont être exterminés. Il se dit, pourquoi, si on me garde vivant, ça va recommencer. Donc lui, il fait rentrer tout le monde en obéissant à Dieu, mais en disant, on mourra dans cette arche, sur cette nouvelle terre, sans descendance. Et un des problématiques du film, c'est les autres personnes qui sont avec lui veulent vivre. Ils disent, mais Dieu ne peut pas vouloir ça. Parce qu'au fond de lui, on est sa créature, donc si on a été choisi pour exterminer, il aurait pu ne pas sauver tout le monde. Alors, il va sauver les animaux, mais l'homme fait partie de son plan, donc il faut le sauver aussi. Et alors, ce n'est pas dit complètement comme ça, mais entre les lignes, entre deux, trois versets, parce que le verset d'après, c'est « Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel ». On peut très bien placer une longue réflexion sur plusieurs jours, plusieurs semaines, où Dieu doute peut-être du fait de sauver quand même Noé, puisqu'il est dit au début qu'il exterminera toute vie sur la terre. Mais là encore, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement important, mais ça m'a permis de me remettre dans l'idée que Noé, tout juste et merveilleux qu'il était un homme comme nous et portait en lui les germes du mal que nous portons tous, et qui fait que même si à certains moments on se dit « je suis chrétien, je suis sauvé », n'oublions jamais qu'il est là et que on est des rachetés, oui, mais des rachetés qui ont une chance énorme parce que, sur le fond, on n'est pas du tout à la hauteur. Alors, donc, Dieu change d'avis parce que injuste, Noé trouve grâce à ses yeux. Comme plus tard, il y aura Lot dans Sodome et Gomorre, à chaque fois, il y a quelques justes qui permettent à Dieu de revenir sur sa décision que sa justice inébranlable doit prendre, mais où il y a toujours un interstice de vie par amour pour sa créature. Dieu s'engage sur l'avenir. Ensuite, Genèse 20, 22, quand il dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, etc. Je vais créer une alliance avec l'homme et je vais même aller prendre l'engagement que cette alliance ira jusqu'à la fin des temps de la terre. Tant que la terre subsistera, il n'y aura pas de nouvelles catastrophes. » Engagement fort sur la qualité d'un homme. Et enfin, il donne un signe de cet engagement, qui est le fameux arc en ciel, alors qui peut être une portée poétique, etc., mais qu'on voit de temps en temps. C'est peut-être aussi un moyen, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait physique, un arc en ciel. On ne va pas dire que c'est un miracle, absolument pas. Mais c'est un signe poétique de ce rapport, de cette promesse que Dieu a tenu envers nous. De l'autre côté, très rapidement, le côté de Noé, qui nous intéresse peut-être plus parce qu'on se sent plus proche de ça, il a été fidèle à Dieu malgré l'environnement contraire. On peut bien imaginer, bien que ça soit dit nulle part, j'ai recherché, il n'est pas dit que les gens se moquaient de lui, lui jetaient des pierres et des cailloux. On peut juste, comme ils étaient indifférents à ce qu'ils faisaient, imaginer que quand même, il y a eu des remarques qui ne devaient pas être simples, assumées, quelqu'un qui arrête tout ce qu'il fait pour construire une arche en plein milieu d'une terre sèche. On présume que malgré cet environnement contraire, ça ne devait pas être simple à assumer. Il a été fidèle à Dieu et il a deux fois, il est dit, en Genèse 7, 5 et Genèse 6, 22, cette phrase très importante, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc fidélité dans la parole donnée à Dieu de dire, tu m'as demandé quelque chose, je vais le faire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'en pensent les autres, je mène la danse. J'y vais. Et ensuite, quand tout ça est terminé, ça se finit bien, en quelque sorte, il remercie Dieu et l'adore. Et c'est, dans la Bible, c'est le premier autel qui est construit. C'est la première offrande faite à Dieu de manière rituelle. On crée un autel et on brûle, on donne des animaux en sacrifice. Donc la reconnaissance à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous et les remerciements que cela inclut. Et enfin, il est honoré, toute cette conduite fait qu'il est honoré par le fait que Dieu, sur son nom et sa descendance, va créer une alliance avec lui jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ça, c'est ce que je dirais, je vous ai dit très rapidement résumé ce qui est le plus connu, ce qu'on peut lire dans un livre de théologie de base sur l'histoire de Noé. Voilà, c'est, historiquement, c'est ça. Pédagogiquement, c'est ça. Théologiquement, c'est ça que cela signifie. Évidemment, je ne vous ai rien appris. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ça ce matin, en plus de vous rappeler ça qui est important, c'est la question que ce film me pose quand on voit les images. Donc là, on l'a déjà lu, entendu, mais avec en plus le choc des images, c'est l'inhumanité du déluge. Ce moment-là est un véritable scandale pour la raison. C'est honteux d'un point de vue humain. D'accord, la terre est dépravée, on l'a vu, mais ceux qui y habitaient, ils étaient comme nous. Quand on lit dans Matthieu 24, ce passage aussi que l'on connaît bien, qui a été repris dans diverses chansons, donc juste le verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Toutes ces personnes-là, c'est vous et moi. Alors, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas très bien, des vicieux, des salopards, entre guillemets, excusez-moi, des criminels, il y avait aussi des mères de famille, des enfants, vieillards, des handicapés, des braves gens, tout le monde, quoi. L'humanité telle qu'on est là aujourd'hui. Et tous ces gens-là, ils ont été exterminés. Et exterminés de quelle manière? Je veux juste que vous réentendiez ce qui est la manière dont cela est décrit dans Genèse 7, tout ce qui se mouvait sur terre, tant les oiseaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout cela périt. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. C'est une extermination. Et ce qui m'a frappé, moi, dans l'image qui est allée en support de ce texte, dans le film, c'est qu'on voit vraiment ces milliers de personnes. Vous, moi, on les voit, ils sont là, ils ne comprennent pas, ils veulent être sauvés, ils voient une arche, ils disent, il y a l'eau qui commence à tomber, allons-y. L'arche, elle est fermée, c'est marqué, Dieu ferme à la porte. Et les gens, ils frappent à la porte. Mais c'est pas tous des bandits, c'est pas tous des violeurs, c'est pas tous des criminels. C'est des femmes, des enfants, et on les voit. Et ils hurlent, ouvre-nous, ouvre-nous. Et il y a l'eau qui monte, ils se mettent sur des rochers, et puis l'eau monte. Et puis à la fin, tu as une image, et tu les vois tous en train de... Je veux dire, c'est terrible comme image. Et ça dure un certain temps de voir ça. Mais c'est notre condamnation à nous qui est là. Parce que nous, à l'époque de Noé, on n'aurait pas été Noé. On aurait bu, mangé, marié les enfants, etc. Et puis à un moment, badaboum. Mais qu'est-ce qu'on aurait été heureux à ce moment-là de pouvoir se jeter aux pieds d'un homme qui s'appellerait Jésus et qui dirait « Oh, je t'en prie ». Ah oui, viens, rentre. Non, la porte, elle est fermée. La porte, elle est fermée. Et les gens, ils tapent. On tape. Il n'y a rien. Et l'eau, elle monte. Tu prends tes enfants dans tes bras, tes parents, tes amis, et tu meurs. Il n'y a plus rien. Je comprends que mes critiques soient négatives et qu'il y ait des gens qui aient dit, vous savez, sur les sites internet, qui disent, mais quel scandale, quel est ce Dieu honteux qu'on se présente, quelle horreur, je ne veux pas de ce Dieu-là. Mais qui veut de ce Dieu-là? Pourtant, c'est celui dont nous parle la Bible et dont le film se fait simplement l'écho, avec les images en plus. Car il y a une culpabilité collective de l'humanité qui est indéniable. Et c'est ce que ce film, et du coup, après, évidemment, le texte que j'ai relu m'a refait comprendre que j'avais commencé à oublier parce qu'on parle de, évidemment de plein de choses. Mais d'abord, ça part de là, le problème. On est coupable individuellement, donc collectivement. Même celui qui ne se croit pas coupable parce qu'il est trop jeune, trop gentil, trop bon, trop bête, il est coupable. Et hop, il va dans l'eau et il y reste. Il y a Hébreu qui dit « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Mais c'est notre condamnation de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il faut aussi l'entendre, ça. Au-delà du fait que maintenant, évidemment, nous sommes sauvés, mais avant, nous sommes d'abord condamnés à tomber dans les mains terribles du Dieu vivant. Et quand on dit dans Hébreu 11, 7, une autre fois où il est fait mention du déluge, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire que cette foi qui nous sauve, nous, en même temps, elle condamne le monde. Et c'est ça, Noé. C'est l'humanité qui est divisée en deux camps. Les avec Dieu et les sans Dieu. Mais pas de notre force à nous, pas de notre volonté à nous. De par le sacrifice de Jésus qui nous permet de dire, de frapper à la porte. Ouvre la porte, la porte dont on parle dans l'arche. Mais c'est aussi la porte frappée et on vous ouvrira. Mais à l'époque, on ne pouvait pas frapper. Et nous, on peut frapper. On a frappé. Et on est dedans. Mais quelle responsabilité, mais quel cri d'urgence pour tous ceux qui nous entourent, pour nos contemporains. Et quelle violence aussi dans ce message-là. Oui, Jésus sauve, oui, Jésus, on a chanté « Chose joyeuse ». Mais d'abord, c'est un Dieu à la colère implacable, un Dieu de justice, un Dieu qui extermine ce qui n'est pas juste et bon parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et on est dans le sac. Et tout ça va recommencer. Parce que Noé est sauvé. D'accord ? L'humanité repart. Comment ? Qui peut quoi dans où ? C'est pas mon problème. Mais quelques chapitres après, vous avez la tour de Babel. Ça repart. Et depuis, mais qu'est-ce qui se passe depuis ? Mais vous vous rendez compte la patience de Dieu ? Il nous fait il sauve l'humanité par amour pour une personne, il dit on va recommencer, et il prend le serment de ne toucher à rien, de ne pas renvoyer le déluge. Mais 1500 fois, 2 millions de fois, il aurait pu le renvoyer. Reprenez l'histoire depuis l'époque du déluge, mais c'est de pire en pire. C'est l'horreur. Là, j'ai dîné avec une amie qui travaille à Médecins Sans Frontières, elle travaille en Afrique. Mais vous n'imaginez pas en Afrique comment les hommes se comportent avec les hommes. Mais c'est innommable. Mais c'est épouvantable. C'est monstrueux. Mais l'homme est un monstre. Nous sommes des monstres. Et notre chance extraordinaire, c'est que il y a Jésus qui est venu nous sauver de cette monstruosité-là. Et il a eu la patience, parce qu'il l'a promis. Il a dit, je ne toucherai à rien tant que la terre subsistera. Cette fameuse patience, on la voit dans 1 Pierre 3:20. Là encore, on parle de Noé. C'est amusant. Donc ces esprits qui autrefois étaient incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. La patience de Dieu, qui pour tenir sa promesse, a dit, si je tiens ma promesse, d'accord, mais il faut que je leur donne une porte de sortie. Ils n'en ont pas, ils sont incapables, on est des monstres. Et c'est Jésus qui vient. Alors, la clé de tout ça, parce qu'on parle d'un déluge qui a eu lieu avant, donc là on se dit il y a Jésus, très bien, mais c'est que la clé, elle est dans un bout du Matthieu 24, 37 que je vous ai lu tout à l'heure, et j'ai un peu triché, c'est pour ça que j'ai demandé à Martine, qui gentiment a respecté ma consigne, de ne pas vous montrer ce que je lisais, parce que juste avant et juste après, il y a la clé de notre questionnement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. On y est au temps du déluge. Et on est la tête hors de l'eau, parce que Dieu a la patience, Dieu lui tient sa promesse que nous on n'a jamais tenue, nous les descendants de Noé. Et il tient, il laisse encore la porte ouverte. Mais combien de personnes viennent heurter cette porte? Vous en connaissez, vous? Quand on leur en parle, ils rigolent. Pour un qui est intéressé, les 3000 autres, ils rigolent. David, il vient de me le dire, qu'il avait dit à ses supérieurs, à ses collègues qui partaient un an avec sa femme pour le tout. Il a eu une très très bonne écoute, paraît-il. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y en a un qui est venu? Attends, c'est dingue, je veux venir. Où est la porte de ton temple, que tu me dises? Où est la porte de ton Dieu? Non. Mais quand le jour du Fils de l'homme, quand le jour de Jésus, le retour va revenir, ils vont être là. Ils vont frapper à la porte. Mais à ce moment-là, la porte, elle sera fermée. Et donc, je vous parlais d'une urgence. C'est ça mon urgence à moi. Et je vous dis, je ne l'ai même pas senti pour moi, je l'ai senti pour moi. Mais est-ce que tu as bien compris ce que ça veut dire? Cette histoire de la Bible, ce Dieu qui crée le monde, qui te crée toi. Toi, en tant que Luc, en tant que Pentecôte, tu es un homme comme les autres, tu es le même. Et ça, tu es exterminé d'abord dans un premier temps parce que tu ne vaux rien, parce que tu ne le vaux pas, parce que tu n'es pas là, parce que ce n'est pas possible. Tu as le mal en toi. Et il ouvre une porte dans l'arche pour que ça reparte, par amour pour l'homme, alors que peut-être tout devait être exterminé. Et ça recommence. Et il prend la promesse. Allez, d'accord. Sans faire d'anthropomorphisme, quand même, qui serait capable de cet amour-là, cette patience-là, et ça repart. Et on y remet une couche, deux couches, trois couches, 1000 couches. Et au fond de chacun d'entre nous, il y a ce matin des douleurs, des choses qu'on n'accepte pas, et des choses qu'on a faites nous-mêmes qui ne sont pas bien, des choses qu'on supporte qui sont insupportables, ou qu'on fait supporter aux autres qui ne sont pas normales. Mais on est là, on est debout dans sa main que parce qu'il a la patience de nous accepter comme ça. C'est quand même... Bon sang, il faut le remercier de ça. C'est énorme. Et le deuxième déluge, il arrive, il s'est marqué. Et où est-ce qu'on sera là? La grande arche, elle est énorme, elle s'est faite pour des millions de gens. Il y en a combien dedans? Combien qui vont frapper à cette porte-là? Et quelle est, nous, notre responsabilité d'aller les dire, allez les gars, oh! Alors moi, je dis aux gens, allez voir Noé maintenant. Et puis quand ils ont vu, ouais, je dis, tu as vu là ce qui se passe? Putain, mais c'est toi, c'est moi. Ah bon? Ah ouais, mais c'est des fables et tout. Non, c'est pas des fables. Et je terminerai par ça, parce que quand ils me disent, c'est une fable, je vais dans 2 Pierre, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ce ne sont pas des fables. Et ensuite, dans Pierre, tout ce vieux passage qu'on pourrait penser vieux de l'Ancien Testament, il est redit, tout est remis dans la fin du Nouveau Testament. Ensuite, après dire non, ce n'est pas des fables, c'est la vérité. Ensuite, il y a la corruption des hommes, qui n'est pas l'époque de Noé, qui est à l'époque quasiment moderne, puisqu'on dit qu'une époque moderne commence avec l'avènement du christianisme. 2 Pierre, donc 2, 10, 19. Alors là, il y va. Ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté, qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, et ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délèguent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent. Ça n'arrête pas. Le portrait de nous, de notre société, c'est pas celle de Noé. Donc c'est la vérité que Dieu a créé l'univers. C'est la vérité que vous êtes, nous sommes tous corrompus. Et ça va continuer. Ces gens qui continuent de se marier, de moi, qui ignoraient ce qui se passait, l'ignorance des hommes, on le voit un peu plus loin, au chapitre 3, versets 3 à 7. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. L'ignorance des hommes. Mais il y a la solution, comme dans Noé, toujours dans ce chapitre de 2 Pierre que j'avais lu avant, mais que là j'ai redécouvert d'une façon extraordinaire, en parallèle avec celui de l'Ancien Testament. Donc 3, 8, 17, et on a toute la clé de ça. Écoutez bien. Mais, et c'est comme ça que se termine cet épître. « Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La porte, elle est là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Mais c'est le copier-coller de ce qu'il dit dans Noé. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » D'accord ? Ça, c'est le constat. Et maintenant, il nous dit, allez-y, voilà ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses et dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. C'est exactement les comptes rendus qu'on lit sur Internet, sur le film Noé. Ils prennent, ils tordent un peu. Et à l'arrivée, ils décapent tout, et ça n'a plus de sens, et ça devient en effet monstrueux. Et enfin, le dernier, « Venez-vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez, le fameux croissé, ce n'est croissé et multiplié, qui donnait en termes de vie humaine, là il le donne en termes de vie spirituelle, croissé dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais moi, quand j'ai lu ça, d'accord, comment je fais là pour tenir sur mes gardes, pour ne pas déchoir, pour croître, parce que je suis un monstre. Je suis un monstre au fond. Eh bien, c'est Matthieu 19, 26 qui m'a donné une clé que j'aimerais vous redonner. C'est à la fin de la parabole du jeune homme riche. Pauvre jeune homme dit, comment je peux faire, etc. Oui, ça je le fais, mais vends tout. Ah ben non, je peux pas. Son côté monstre est sorti à ce moment-là. Alors les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dire cette question qu'on se pose aujourd'hui après ce que j'essaie de vous dire, ce qu'on sait, qui peut donc être sauvé? Et la réponse est extraordinaire. Jésus les regarda. Il va marquer, Jésus dit, Jésus les regarda. Jésus nous regarde, Jésus me regarde. Il est devant cette porte de l'arche, il nous regarde. Vous vous rendez compte? Il nous regarde. Et il dit à ce moment-là, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais c'est la plus belle des promesses. Il a tout dit, tout prévu, tout donné. Qui donc peut être sauvé? Demandent les disciples. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà, c'était l'urgence que je voulais vous transmettre.